Afternoon, everybody. No!
We'd like the Black Legion to stop this farmer strike on behalf of American prosperity. And in return, we're offering substantial support for as long as our business interests and your moral crusade both continue to happily coincide.
God damn it, Chantal! What is wrong with you?
What do you think banks do with money? Put in other banks? No, they do what everyone with money does. They use it to rout and pillage and plunder because that is the American way.
So Alex Stromboli claims that he got a hand job from Sarah Pearson.
Hold on. I can't talk to you about that.
Murder board. Murder board. Murder. No chanting.
You're slut-shaming me. Shame on you.
Girl. Can you come down off the cross? We need the wood.
Pap and Leonard! Come out and play!
Bienvenue à l'écoute de Série Folie, émission 11 de la saison 6, avec Aurore. Bonsoir, Aurore.
Bonsoir.
Émission un peu spéciale aujourd'hui, puisque c'est déjà la dernière de l'année 2018. Et donc, c'est une émission bilan. Et on parle bien de toute l'année, donc.
Oui, on parle bien de janvier à décembre.
Voilà qui est précis. L'année 2018 en série télévisée, revue et corrigée par Aurore et moi-même. Série Folie, c'est reparti. Et on commence par quoi? Quel type de série? Un petit mot peut-être de ton côté?
On va commencer par parler des nouveautés, des séries qui ont débuté cette année-ci. Mm-hmm. Faire un bilan un petit peu de ce qu'il en reste. Avant même peut-être de commencer par ça, je vais commencer, je suis désolée d'avance, mais sur une note un petit peu en demi-teinte. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est une impression qui m'est totalement personnelle ou bien si d'autres auditeurs se retrouveront dans ce que je vais dire, mais j'ai beau j'ai l'impression passer une année sérielle de la même manière, plus ou moins, que les précédentes. Au niveau de ce qu'il en reste, ben, il y a beaucoup moins, en fait. Il y a déjà, le premier constat, c'est qu'il n'y en a pas une vraiment où je peux dire « cette année-ci, c'est l'année où j'aurai découvert cette série-ci en particulier ». Il y a des séries qui m'ont plu, on va en parler, mais j'ai pas une grosse série en tête dont je me dis « ah, cette année-ci, c'était l'année de cette série-là ». Ce sera peut-être un petit peu plus le cas pour la deuxième partie où on parlera des saisons... qui sont pas les premières, mais qui sont relativement remarquées parce que remarquables. Mais pour les nouveautés, j'ai pas été transportée au point de me dire mais il y a vraiment une série qui mériterait à elle seule de justifier l'entièreté de l'année, quoi. Donc voilà, probablement aussi que ça rejoint un petit peu le bilan que je tirais. Il y a quoi, deux semaines de cela, quand j'avais parlé du rôle du public et que j'avais dit que l'évolution des séries allait de plus en plus vers des séries qui n'en sont
plus
trop, hein, mm-hmm. Puisque ce sont de plus en plus des mini-séries qui ne durent pas, qui ne sont pas destinées à durer, qui sont juste comme ça des fulgurances, qui sont destinées à faire parler d'elles sur l'instant, faire le buzz comme ça, mais qui n'ont pas pour ambition de s'installer vraiment dans la longueur et d'instaurer du coup une relation privilégiée avec son public pendant des années et des années. Et ça, malheureusement, ce constat-là, à mon avis, pèse beaucoup sur cette impression de trop peu que je ressens en bilan de cette année-ci. Alors, on va malgré tout parler des séries qui m'ont plu. J'en ai repéré, enfin, je les ai subdivisées en différentes catégories. Et pour changer, puisque j'ai pas vraiment un top à proposer et puisque il n'y a pas énormément de comédies non plus parmi toutes celles dont je vais parler, il n'y avait pas vraiment moyen de parler des dramas d'un côté, des comédies de l'autre. Là aussi, le constat qui ne fait que renforcer ma frustration de la disparition progressive des bonnes comédies ne fait que s'accroître. Et donc, j'ai subdivisé en trois parties. La première partie, ce serait plutôt les nouveautés qui apportent une forme d'originalité, qui ont été remarquables par leur originalité, par le fait qu'elles apportent quelque chose de totalement nouveau, qui renouvelle un petit peu le genre sériel. Et donc, c'est pour ça qu'elles ont clignoté un petit peu sur mon tableau de l'année. Il y a celles aussi qui se sont faites remarquer davantage par l'attachement qu'elles pouvaient provoquer chez moi, hein, le lien purement émotionnel, l'investissement en tant que spectateur, tu as envie de mettre dans la série, c'est évidemment aussi un élément extrêmement important, parce qu'on ne passe pas autant de temps devant une série si on n'y est pas un petit peu poussé par notre attachement pour les personnages ou pour l'intrigue ou pour quoi que ce soit, l'ambiance parfois, mais il faut qu'il y ait quelque chose, quoi. Et puis la dernière catégorie, qui rejoint justement ma volonté de mettre en avant les séries qui ont pour ambition de durer, mais c'est justement les nouveautés dont je me suis posé la question. Tiens, imagine-toi en 2020, par exemple, à faire ton bilan de l'année 2020, quelles sont, parmi les nouveautés de cette année-ci, celles qui sont susceptibles d'encore être là et que tu aurais encore plaisir à continuer à regarder dans 2 ans. Et 2 ans, c'est pas extrêmement ambitieux, hein, pour une série, mais j'osais même pas imaginer dans 5 ans, quoi. Et c'est dire à quel point je suis un petit peu pessimiste sur l'avenir,
clairement,
quoi. Mais bon, voilà. Alors, on va commencer donc par la première catégorie, celle plutôt de l'originalité. Alors c'est l'originalité qui peut aller dans tous les sens, hein. Là aussi, ça peut être une originalité formelle, ça peut être une originalité davantage au niveau de l'intrigue. On nous présente vraiment une intrigue soit très très au pitch qui sortent vraiment de l'ordinaire, soit parce que ils portent un propos particulièrement nouveau et intéressant. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être prises sous cette idée d'originalité. J'en ai repéré, apparemment, il y en a 7. Tu me diras ce que toi t'en penses, s'il y en a d'autres auxquelles tu aurais pu penser, mais voilà celles auxquelles j'ai pensé pour le moment. Alors il y a la série Homecoming, donc, qui était la série sur Amazon avec Julia Roberts en rôle principal. C'est une nouveauté relativement récente, hein, j'en ai parlé il y a peut-être un mois, grand maximum, et je crois que c'est une série qui, notamment au niveau de l'ambition de faire passer son message aussi par la mise en image, a été remarquée. Et donc, je l'ai mise dans cette catégorie-là. Ça nous parlait de quoi, Homecoming, pour rappel, hein, pour ceux qui ne seraient pas déshabitués, eh bien, ça nous parle d'un centre de réhabilitation des soldats qui reviennent de la guerre. Et on navigue entre deux temporalités à chaque fois sans trop savoir en vérité ce qui s'est passé dans ce centre entre le moment où ils y sont et puis quelques années plus tard. C'était assez intriguant, véritablement intriguant. C'était très bien joué et ça avait en plus ce petit cachet supplémentaire de la mise en image, comme je l'ai dit, qui était vraiment et qui donnait vraiment l'impression d'avoir affaire à un travail artistique abouti, quoi. Donc voilà, Homecoming, c'était la première recommandation que j'avais envie de faire. La seconde, là aussi, c'était relativement nouveau, c'est The Haunting of Hill House, qui a aussi été plutôt remarqué. Hein,
voilà, un des bests de l'année.
Oui, oui. C'est vraiment une série qui t'a beaucoup plu. Mais moi aussi, hein, clairement, c'est une série que j'ai trouvée très, très réussie. Là aussi, au niveau de la forme, ils ne se sont pas foutus de notre gueule, comme on dit. Hein, et très attachante aussi par ses personnages, par ce qu'elle avait à nous dire aussi. Alors, j'ai été un petit peu moins emballée par le tout dernier épisode et je crois qu'on est nombreux dans ce cas-là, mais malgré tout, ça n'enlève rien à la qualité de la série dans son ensemble, quoi. La question, autant pour l'un que pour l'autre, hein, là je viens de citer deux séries, c'est quand même de savoir ce qu'il en sera de la suite, parce qu'on n'a pas annoncé que c'était des mini-séries, donc on imagine, on espère qu'il y aura des saisons 2, mais en même temps, on a du mal à voir vers quelle direction ça va pouvoir aboutir. Éventuellement, en faire des anthologies, c'est toujours possible. Mais à part ça, notamment pour The Haunting of Hill House, j'ai un petit peu de mal à imaginer ce que ça pourrait devenir par la suite, quoi. Donc ça, c'est toujours un petit bémol malgré tout. Bon, alors je vais continuer sur le côté donc plutôt originalité, cette fois-ci plutôt dans le pitch de départ, avec Forever qui cette fois-ci penche plutôt du côté de la comédie, pas de la sitcom, mais de la comédie un petit peu plus lente, hein, qui s'est beaucoup installée depuis déjà quelques années, et qui avait quelque chose d'absolument frais comme ça, et d'inattendu aussi, parce que finalement personne ne l'attendait là, cette petite série Forever, et qui a réussi parfaitement son chemin, mais sans plus, sans qu'on se dise oh mon Dieu, je veux absolument voir la suite, parce que là aussi, mais au niveau de ce qu'on peut en attendre pour la suite, c'est un grand, grand point d'interrogation. Donc voilà, tu remarqueras que jusqu'ici, on est sur des séries de plateformes, hein, une sur Netflix, The Haunting of Hill House, et deux de Amazon, Forever et Homecoming. Je continue avec cette fois-ci une autre comédie, enfin pas vraiment, parce que ça parle vraiment pas d'un sujet drôle, mais en tout cas d'un format court. Il s'agissait de Kidding sur HBO cette fois-ci, avec Jim Carrey dans le rôle d'un animateur d'émissions pour enfants qui doit faire face au deuil d'un de ses fils. C'était au niveau de l'originalité, alors on a Michel Gondry à la manœuvre et ça se voit, et donc à ce niveau-là, c'était plutôt bien joué d'aller le chercher pour faire une série, parce que entre lui et Jim Carrey, on a vraiment un couple gagnant pour nous faire quelque chose qui ne ressemble à rien d'autre de ce qui nous est proposé dans les séries habituellement, quoi. Donc c'était plutôt bien joué aussi à ce niveau-là. Je continue avec Counterpart. Counterpart qui vient tout juste de recommencer là pour sa saison 2. Donc là, on voit un petit peu plus vers où ça pourrait éventuellement mener pour la suite. Il y a une ambition de continuer, d'être une vraie série. Ça, c'est déjà certain. Et qui, avec finalement un monde qui paraît extrêmement terre-à-terre, voire rigide et un peu bureaucratique, nous propose une ouverture vers quelque chose d'assez fantastique, puisqu'on a l'idée qu'un monde parallèle se serait créé il y a une trentaine d'années, et avec des doubles à chaque fois, des personnages qui se trouvent d'un côté, enfin dans un monde qui retrouve son double de l'autre côté, mais un double qui évidemment n'a pas vécu les mêmes choses et donc est très très différent de lui. C'était très très intéressant, notamment et principalement par la présence et le talent de son interprète principal, c'est C.K. Simon. Je me souviens plus
moi non plus.
Des initiales devant, mais c'est Simons en tout cas. Voilà, si vous ne l'avez pas vu, ben il y a pas d'hésitation à avoir pour la rattraper cette saison 1 et pouvoir commencer là maintenant la saison 2. Donc Counterpart, je termine avec deux autres séries, une qui a été annulée dès sa première saison, et c'est une des grosses déceptions. Alors il y en a plusieurs, hein, des séries qui ont été annulées cette année-ci, pour lesquelles je ne décolère pas. Il y a donc celle dont je vais parler maintenant, qui s'appelle Here and Now, qui était la série la série du créateur de Six Feet Under, et qui moi m'a absolument enchantée, malgré un pilote assez désastreux qui me faisait craindre le pire, que je n'avais pas du tout aimé, qui m'a emportée pour toute la suite de sa première saison, et dont en plus justement on pouvait espérer beaucoup pour les saisons à venir qui ne viendront donc jamais. Tu comprends ma grande frustration. Pour moi, je l'ai mis du côté de l'originalité parce que vraiment, il y avait une manière comme ça de lier les problématiques de chacun des personnages et de porter un propos sur le monde actuel qui me paraissait assez original et qui n'a apparemment pas été entendu par beaucoup. Donc je trouve ça très très dommage. Et je terminerai avec le dernier, c'était Trust. Trust qui, cette fois-ci, à nouveau, on retrouve un nom plutôt connu puisque... c'est Danny Boyle qui était à la manœuvre de cette série-là, qui aurait pu nous faire craindre, en tout cas, sur son commencement, un peu trop de maniérisme, un attachement à l'esthétique pure qui, moi, parfois peut m'énerver un peu, mais qui s'est révélé surtout par l'interprétation de ces personnages, de ces acteurs, et par ces personnages véritablement très passionnants. Et à la fin, on est vraiment attaché à son siège, à espérer que finalement cette histoire se termine bien, alors qu'il s'agit d'une histoire vraie et que finalement, il suffit d'aller voir ce qui s'est passé, quoi. Mais c'était, je trouve, particulièrement bien joué de la part de cette série-là, et le pari a été très bien mené, On sait hein, que les séries qui revisitent les faits divers des décennies précédentes ont plutôt la cote pour le moment, mais celui-là, je trouve, a été particulièrement bien réussi. Voilà, voilà. Donc, et puis, pour la catégorie attachement davantage. Bon, je vais essayer de peut-être durer moins longtemps parce que je vois bien que je prends déjà beaucoup de temps.
Oui.
Alors, je dirais que il y en a certaines dans celles que j'ai citées qui sont aussi plutôt attachantes. Hein, quasiment toutes celles que j'ai citées, on pourrait les mettre aussi de ce côté-là. Ceci dit, il y en a certaines qui, au niveau de la forme, me paraissent un petit peu moins originales peut-être, mais qui néanmoins m'ont passionné. C'est notamment le cas de la mini-série Waco, que j'ai beaucoup aimé personnellement. J'en avais déjà parlé à la fin de la saison passée. Je crois que toi aussi, t'avais plutôt aimé cette série-là. Mais il y a aussi la série, encore une série qui a été annulée au bout de seulement une saison, c'était Dietland. Dietland qui, là aussi, faisait un pari assez risqué, hein, parce que ça nous présentait quand même un propos un peu subversif, même si on pourrait se dire, oui, critiquer le monde de la mode et l'obsession de la minceur ou ce genre de choses, c'est pas du tout nouveau, ça n'a rien d'extraordinaire, mais en même temps, ça proposait quand même une voie de combat. En tout cas, parmi les voies de combat proposées, il y en avait une qui était quand même un peu violente et qui probablement a fait un peu peur, en tout cas, j'imagine. Ou bien alors, la série n'a vraiment pas rencontré son public, mais en tout cas, j'en ai beaucoup entendu parler, donc j'ai quand même l'impression qu'il doit y avoir eu du monde qui a regardé, quoi. Je suis pas sûre que ce soit ça la justification de son arrêt brutal. Bref, Dietland, qui restera, elle aussi, dans les annales, malgré le fait qu'elle n'ait fait qu'une seule saison, ça vaut quand même la peine d'aller y jeter un œil. Il y a aussi Good Girls qui là est vraiment très très classique au niveau de sa forme, hein. C'est une série de network, mais c'est une série de network qui a vraiment bien bien mené sa barque du début jusqu'à la fin et que j'ai vraiment apprécié, et je sais que je ne suis pas la seule, tout comme d'ailleurs, à ma plus grande surprise, The Chilling Adventures of Sabrina, qui nous a d'ailleurs proposé, si vous ne l'avez pas encore vu, un petit épisode de Noël, là, il y a quelques jours, qui est vraiment pas mal. Donc, voilà. À noter qu'il y a deux séries que j'ai pas encore eu le temps de terminer, mais pour lesquelles il reste encore un gros gros point d'interrogation, parce que jusqu'à présent je suis vraiment très intriguée et je suis convaincue que je ne serai pas déçue à la fin. Il s'agit de Lodge 49, qui était sur AMC cet été et qui est vraiment assez particulière, mais dans le bon sens du terme, tel que on n'en a pas vu tant que ça finalement ces derniers temps, notamment sur AMC. Et puis $1, donc, qui était proposé. Tu confirmes que tu as bien aimé aussi jusqu'à présent, ouais. Sur CBS All Access. Donc là aussi, ça vaut la peine d'y jeter un œil. Voilà. Je termine avec les quelques séries qui ont peut-être un espoir de continuer un petit peu plus longtemps. Alors, dans celles que j'ai déjà citées, il y avait Counterpart, il y a Good Girls, qui elle aussi a peut-être un espoir de pouvoir continuer, et pourquoi pas Chilling Adventures of Sabrina aussi. à part ça, eh bien, je citerai aussi une comédie en particulier qui s'appelle Epi Bio, qui nous propose de suivre une classe de préparation aux études de biologie, mais donnée par un professeur de philosophie viré par son université et qui n'en a absolument rien à faire de la biologie. C'était particulièrement réjouissant à voir, et avec ce qu'on apprécie particulièrement dans ce genre de comédie-là, c'est-à-dire une attention apportée à l'arrière-plan, à l'univers dans son ensemble, qui fait que on a quelque chose qui vit véritablement, quoi. On n'est pas seulement concentré sur les personnages, les quelques personnages qui sont en train de parler, ou bien la petite intrigue finalement très vite oubliable qu'on est en train de nous présenter, mais il y a tout un univers qui se met en place derrière qui est vraiment assez passionnant. Enfin, il est passionnant de voir la constitution de cet univers-là. Donc voilà, ça c'était aussi plutôt chouette. Et à ma plus grande surprise, cette série-là n'a pas été annulée. Donc alléluia. Et je citerai encore quelques autres séries, notamment New Amsterdam, qui était une nouveauté de cette saison-ci et qui jusqu'à présent continue à bien m'amuser. Donc je me dis, mais pourquoi pas, peut-être qu'en 2020 je serai encore en train de la regarder, c'est possible. Tout comme For the People, cette fois-ci on n'est plus à l'hôpital, on est chez les avocats, mais c'était aussi une petite série sans grande ambition de Network, mais qui m'avait beaucoup plus pleine de bons sentiments, mais sans être dégoulinant, ça changeait. Éventuellement aussi The Kominsky Method, pourquoi pas, si Michael Douglas a envie de remettre le couvert encore plusieurs années, ça pourrait être, il pourrait faire comme Grace et Frankie, qui ont quand même déjà, il me semble, 4 saisons derrière elles, donc ce serait envisageable. Donc voilà, ça ce sont les quelques saisons, séries auxquelles j'avais pensé et qui pourraient nous réjouir dans quelques temps. Voilà.
D'accord. Bon, ben, un beau compte rendu. On va essayer de faire une petite pause, néanmoins en musique.
Oui, on va s'écouter True Love Waits de Radiohead, entendu dans For the People. Thank you.
La suite de cette émission bilan de l'année 2018. Sari Folie, on vous parle Sari Téléviseur et Aurore, on t'écoute.
Oui, ben on va continuer donc non plus cette fois-ci avec les nouveautés, on les met de côté, mais avec les saisons suivantes, les séries dont les saisons 1, 2, 3, 4, 5 et autres nous ont, enfin m'ont particulièrement plu cette année, ont été plutôt remarquables. À noter que pour certains d'entre eux, ben c'était justement la dernière saison. Donc ben ça permet de terminer la série en beauté, c'est pas plus mal. En tout cas, quand il ne s'agit pas seulement de la saison 2, ce qui me met généralement plutôt en colère.
D'accord.
Bon, à nouveau, on va continuer sur le même modèle, c'est-à-dire nos trois catégories. Et on va commencer tout de suite avec les séries qui ont brillé particulièrement par leur originalité. Hein. Alors, il y en a quand même un certain nombre. Je citerai, alors il y en a une qui a beaucoup fait parler d'elle, c'est Atlanta. Atlanta qui a proposé, qui s'est encore plus enfoncé dans un délire très très éloigné de ce à quoi on peut être habitué habituellement, forcément,
oui.
pour le spectateur de série lambda, puisque chaque épisode finalement nous proposait de suivre déjà des personnages qui parfois n'avaient qu'un lien très ténu avec le personnage principal de la série, et puis dont les intrigues n'étaient pas du tout forcément liées à ce qui arrivait justement à ce personnage principal. Mais en même temps, bah, c'était à chaque fois des ambiances très très réussies et un propos qui est à chaque fois tenu, qui valait quand même le détour, quoi. Alors parfois, on pouvait se sentir un petit peu dépaysé malgré tout. Je crois que ça a été ton cas aussi. Comme moi, il y a certains épisodes où on se demandait un petit peu où ils nous emmenaient.
Soit on était surpris agréablement, tu vois, on se laissait emmener, soit c'était du grand n'importe quoi, hein, quand même.
Oui, il y a certains épisodes où on était vraiment très dubitatif pendant l'épisode. Mais malgré tout, on reste, tu vois, scotché par l'ambiance qu'il arrive à instiller dans chacun de ses épisodes, même pour des personnages qui finalement, avec lesquels on n'a pas un attachement extrêmement fort, quoi. Donc ça, c'était assez bien joué quand même, quoi. Deuxième série dont j'ai parlé cette saison-ci, mais qui a vraiment fait une 13e saison déjà, oui, une 13e saison particulièrement réussie, et je veux évidemment parler de l'ensemble de la saison, mais il faut notamment voir le final qui, là aussi, te laisse sans voix. C'est It's Always Sunny in Philadelphia, qui, mine de rien, en nous proposant toujours quelque chose d'un peu déconnecté finalement de l'actualité, puisqu'on a des personnages qui en restent toujours au même point, c'est-à-dire qu'ils ne font que s'engueuler dans leur bar et puis c'est tout, et jamais ils n'évoluent, jamais il leur arrive des choses qui permettent véritablement de changer leur dynamique, etc. Et en même temps, c'est une série qui y a réussi, et qui réussit quand même souvent à être particulièrement pertinente et à apporter un regard très intéressant sur les débats les plus actuels du moment, quoi. Donc voilà. Si ça vous intéresse, c'est une série qui n'exige pas forcément d'avoir vu l'entièreté pour apprécier sa saison, quelle qu'elle soit. Notamment, allez voir le dernier épisode de la saison 13. Vous comprendrez ce qu'elle a, ce qu'il peut avoir de si étonnant. Alors, évidemment, il y a toujours South Park. Tu sais que je suis une grande amatrice de South Park, et South Park, mais
ne s'essouffle pas.
Là, par contre, contrairement à It's Always Sunny in Philadelphia, on a véritablement une grosse évolution des personnages, de la manière dont ils traitent les choses, etc. Ça a énormément changé en je sais plus combien d'années maintenant ils font ça, mais ça devient assez vertigineux. Mais en même temps, franchement, ils arrivent très très souvent à nous dire des choses qui valent la peine. Donc voilà, et espérons pour les deux que ça dure encore longtemps, parce que jusqu'à présent, franchement, ils ont des choses à nous dire, donc pourquoi nous en priver ? Alors, je citerai encore American Vandal. La saison 2 qui m'a beaucoup plu, j'en avais parlé aussi, et pour lesquelles je suis encore une fois très fâchée d'apprendre que c'était la dernière. Donc voilà, merci les gars. American Vandal qui finalement au niveau de sa forme se prêtait tout à fait à une reconduction encore pendant des saisons et des saisons. Il n'y avait absolument pas nécessité de l'arrêter là. Je ne sais pas pourquoi elle a été arrêtée. Alors, c'est peut-être une décision des créateurs eux-mêmes. J'ai pas été vérifiée. Tu sais bien que je me renseigne assez peu sur ce genre de choses habituellement. Mais en tout cas, ça m'agace vraiment.
C'est décevant.
Et je trouve ça, oui, très décevant. Donc voilà, American Vandal, la saison 2 valait vraiment la peine. Malgré son point de départ qui laissait craindre quand même le pire, parce que les histoires de caca, je suis pas forcément hyper preneuse, tu vois, et pourtant ils avaient réussi particulièrement bien à mettre le doigt dans le mille, donc voilà. Je continue encore avec, évidemment, je ne pouvais pas ne pas la citer, The Good Place. Tu remarqueras que finalement, il n'y a que des comédies dans ce que je cite jusqu'à présent. Ça prouve que c'est ça qui me plaît beaucoup. The Good Place qui continue, alors que là aussi, là par contre, au niveau du pitch, on aurait vraiment pu craindre que même si on adhérait à la saison 1, la saison 2, ça ne marche pas aussi bien, et la saison 3 encore moins. Et pourtant, ils arrivent à se renouveler à chaque fois, à nous proposer remettre entièrement les choses à zéro à chaque saison, à nous donner de nouveaux enjeux. On a une évolution constante, on a aussi une interrogation sur ce qui est en train de se passer et sur ce que ça peut signifier, notamment sur les implications morales des actions des personnages, etc., qui est toujours passionnante. Donc c'est vraiment une des grandes séries du moment, qui fait d'ailleurs énormément parler d'elle. Elle n'a pas besoin de moi, mais pourquoi ne pas s'adjoindre à l'ensemble des éloges. C'est mérité. Voilà. Ça, c'était pour le côté plus originalité. Je pourrais citer aussi BoJack Horseman éventuellement, même si cette saison-ci, j'ai été un petit peu moins amatrice que les saisons précédentes, j'avoue. Donc voilà, c'est plus plus en demi-teinte en ce qui me concerne. Au niveau de l'attachement, ici, on peut dire qu'il y a quand même une série en particulier qui devrait faire le top de l'année, c'est The Americans. The Americans qui a terminé sa série cette année-ci. Je me souviens plus si c'était la saison 6 ou la saison 7. C'est pas très très important. Ce qui est important de dire, c'est que c'était une saison extrêmement forte en émotion. Là aussi, on était à certains épisodes accrochés à son siège comme jamais. Avec les deux derniers épisodes qui étaient vraiment montagnes russes émotionnelles, ça partait dans tous les sens et c'était magnifique, vraiment. Donc c'est le genre de série qui te donne encore l'espoir dans les séries et qui te permet de continuer à les aimer. Avec la crainte justement qu'on ne permette plus à ce genre de projet-là de se mettre en place suffisamment longtemps pour pouvoir arriver à ce genre de satisfaction-là au bout d'un certain nombre de saisons, quoi. Donc voilà, The Americans, c'est grâce à son final particulièrement réussi, finalement, c'est une série qui est absolument maîtrisée et parfaite du début jusqu'à la fin. Donc si vous ne l'avez pas vu et si vous voulez voir un truc qui vaut vraiment la peine, n'hésitez pas à regarder The Americans. Ensuite, je citerai encore Trial and Error, encore une comédie annulée au bout de sa saison 2, à mon plus grand désespoir, et qui était aussi réussi que la saison 1, sauf qu'en plus elle bénéficiait évidemment de tout ce qui avait déjà été mis en place comme univers dans la saison 1, et donc ça n'en était que plus drôle, et ça n'en promettait que mieux encore pour la suite, mais voilà, c'est fini. Donc on va pas trop en parler, sinon je vais
m'énerver. Tu vas encore t'énerver, oui.
Mais oui, tu me connais, je peux pas m'en empêcher. Il y en a encore beaucoup d'autres. Je citerai Luke Cage, tiens, encore une série annulée au bout de sa saison 2. The Handmaid's Tale, qui était à mon avis encore plus réussi que la saison 1. J'ai beaucoup apprécié cette saison 2, sans trop savoir ce que ça donnera pour la suite, ceci dit. La série Close aussi, qui est bien bien barrée, qui part dans tous les sens, mais qui en même temps est extrêmement attachante. Better Call Saul, malgré une petite distance qui commence à se marquer avec le personnage principal qui devient de moins en moins sympathique, hein. On avait déjà vécu ça un peu avec Walter White, qui lui aussi était devenu moins sympathique au fil des saisons. Mais ici, Jimmy, il en prend un peu un coup, surtout sur la fin de la saison où c'est un petit peu glaçant sa manière de réagir. Mais donc, en tout cas, c'est particulièrement bien mené dans leur manière de nous montrer comment un personnage peut se transformer du tout au tout, quoi. Donc voilà, Better Call Saul, c'était aussi vraiment bien. J'avais parlé de Shameless il n'y a pas si longtemps que ça, mais encore une saison plutôt réjouissante aussi du côté de Shameless. Et puis, il y avait Superstore, c'est toujours bien, hein. Du début à la fin, par le milieu, tu le prends par n'importe quel bout, c'est bon, donc tu te regardes n'importe quel épisode, si ça ne va pas dans ta vie, et tout de suite, tu te sens en famille, et t'es requinqué pour repartir, c'est absolument génial. Unbreakable Kimmy Schmidt, c'était aussi vraiment réussi, de même que Irresponsable ou Big Mouth. Et encore une fois, mais je me rends compte qu'il y a quand même énormément de comédies dans tout ce que je cite, mais vraiment oui, ce sont des séries sans lesquelles la vie serait un peu plus terne, selon moi. Donc voilà, toutes ces saisons-là valaient la peine d'être remarquées en 2018. Et j'espère que pour un certain nombre d'entre elles, ce sera le cas encore en 2019, lesquelles me semblent pouvoir encore avoir un certain avenir et j'espère encore pouvoir regarder longtemps. J'ai déjà parlé de It's Always Sunny in Philadelphia et South Park, mais j'ajouterai à ça à peu près toutes celles dont j'ai parlé finalement, Big Mouth, Superstore, alors malheureusement Irresponsable et Unbreakable Kimmy Schmidt, on nous annonce déjà que ça va se terminer très bientôt, mais on espère que ce sera en apothéose au minimum. The Good Place, pourquoi pas une The Good Place qui dure encore des années et des années, de même que toutes les autres que j'ai déjà citées, j'ai pas besoin de les reciter, toutes sont pleines de promesses, c'est pas pour rien que elles sont aussi remarquables dans les saisons qui de 2018, c'est aussi parce que et elle porte en elle les germes d'un espoir pour la suite et c'est ça qui fait aussi une grande série, quoi.
C'est vrai.
Voilà, voilà.
Bon, pause musicale.
Pause musicale, oui, en effet, on va s'écouter Norah Jones avec Peace, entendu dans The Handmaid's Tale.
There's a place that I know where the sycamores grow and daffodils have their fun, where the cares of the day seem to slowly fade away in the glow of the evening sun. Peace when the day is done. If I go there real late, let my mind meditate on everything to be done. If I search deep inside, let my conscience be my guide, then the answers are sure to come. Don't have to worry life's true meaning comes to you, and the freedom you seek is won. Peace is for everyone. Peace is for everyone. Peace is for everyone.
suite et fin de cette émission bilan de l'année 2018. Les séries télévisées revues par toi, notamment Aurore. Et on t'écoute.
Oui, alors on va parler de deux choses pour terminer. La première, c'est quelques déceptions malgré tout, parce que cette année a aussi été marquée par un certain nombre de déceptions, et puis dire au revoir à un certain nombre de séries. J'ai dit qu'il y en avait beaucoup qui avaient été annulées. Au niveau des déceptions, alors je citerai pour sûr Westworld qui a offert une saison 2 que certains ont peut-être compris, mais alors qui me téléphone, qui m'explique, parce que moi je suis restée totalement à côté, même si il y a certains moments où j'ai cru un petit peu comprendre sur certaines fins d'épisodes, mais même avec ça, je me suis tellement ennuyée le reste du temps que vraiment ça valait pas la peine de donner autant de temps pour ça. La saison 3, ce sera sans moi, du coup. Hein. Malheureusement, Mr. Mercedes, qui a offert une saison 2 très, très en dessous de sa saison 1. Et c'est assez dommage. Je continuerai aussi en citant Castle Rock, dont j'attendais beaucoup, et qui finalement s'est révélé relativement vite oubliable. En tout cas, c'est vraiment pas une série que je retiendrai pour cette année-ci. La saison 2 de Goliath ne m'a pas énormément plu. Le renouveau entre guillemets de Arrested Development. Alors bon, il y a la suite qui vient d'arriver sur Netflix. J'ai pas encore eu le temps d'aller voir, mais je dois t'avouer que je suis pas impatiente vu la relative nullité du premier début de saison qu'on avait eu l'occasion de voir. La fin de The Originals, c'était pas très original justement, et c'était là aussi assez décevant. La reprise de Nashville sur la chaîne, c'est la chaîne de la country, c'était... Ils auraient mieux fait finalement de laisser mourir cette série de sa belle mort. Ça valait pas vraiment le coup non plus. Et puis Animal Kingdom était assez vite oubliable aussi. Alors les fins de série, malheureusement, dans les fins de série que je vais citer ici, finalement, si je fais le bilan, il y en a peut-être 4 qui finissent plus ou moins de leur belle mort au bout de 5, 6, 7 saisons relativement bien menées. Ah non, il y en a 5 quand même. Mais toutes les autres, c'est soit dès la saison 1 ou la saison 2. Quoi. Donc, et c'est évidemment plus pour celle-là que je m'énerve, entre guillemets. Alors, celle auquel on a pu dire au revoir dans de bonnes conditions, c'est The Americans, c'est Major Crimes, c'est New Girl également, c'est The Originals, comme je l'ai déjà cité, et puis c'est The Middle. Qui finalement a mené sa barque sans trop se faire remarquer, mais en même temps toujours avec beaucoup de plaisir, en nous apportant en tout cas beaucoup de plaisir jusqu'à la fin. Donc tout ça, c'était plutôt satisfaisant et on n'a pas à les regretter vu que ça permet d'avoir des séries qui se terminent correctement. Par contre, on pourra citer plein de séries qui auraient pu donner des suites tout à fait passionnantes, intéressantes, qui auraient pu, en 2020 et peut-être même en 2025, encore nous réjouir et à qui on a dû dire au revoir prématurément. J'ai cité Here and Now, je ne citerai jamais assez Damnation, mais évidemment American Vandal, Diet Maitland, Trial and Error, The Meek, que je regrette énormément. On a aussi People on Earth, on a Imposters, on a American Vandal, je l'ai déjà dit peut-être.
Oui.
Luke Cage, Haters Back Off, Dirk Gently, Holistic Detective Agency, Good Behavior, Here and Now, si je ne l'ai pas encore dit, et puis Rise. Donc voilà, il y a quand même pas mal de séries finalement qu'on est triste de voir partir.
Voilà, ce sera le mot de la fin.
Voilà, voilà.
Merci pour cette belle année passée tous ensemble.
Ben de rien.
On se retrouve en 2019.
Ben j'espère.
D'accord. Eh bien, d'excellentes vacances, les meilleurs vœux, bonne fête de fin d'année.
Oui, on va justement se souhaiter de bonnes fêtes avec Blue Christmas de Elvis Presley, entendu dans Trial and Error.
Merci Aurore et à tout bientôt. I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking. Christmas tree won't be the same, dear, if you're not here with me. And when those blue snowflakes start falling, that's when those blue memories start. Blue, 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 blue Christmas.